La dernière étude démographique de l'INSEE vient de sortir et vous la décryptez ce matin, Isabelle Duché, avec votre invité.
Mon invité est Alexandre Bottier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur régional de l'INSEE Occitanie. Merci d'être avec nous sur Radio Présence pour nous parler des derniers chiffres de la démographie en Occitanie. Vous étiez venu en janvier dernier pour nous présenter et nous parler aussi de la population en Occitanie. Quelle est la différence entre ces deux études ?
Alors, j'étais venu vous parler de l'évolution de la population. Combien d'habitants comptait l'Occitanie et ses départements? Évidemment, les moteurs de cette croissance démographique, ce sont d'une part le solde migratoire, donc la différence entre les entrées et les sorties, et puis d'autre part, le solde naturel, les naissances et les décès. Et là, on a des chiffres plus récents, les derniers chiffres sur les naissances et les décès, et c'est de ça dont je viens vous parler.
Et voilà, donc au 1er janvier 2026, l'INSEE estime la population de notre région à 6 247 000 habitants. Comment l'Occitanie se situe par rapport aux autres régions françaises ?
Alors, l'Occitanie, comme l'ensemble de la France d'ailleurs, a un point commun, c'est que ce n'est plus le sol naturel qui alimente sa croissance. C'est-à-dire qu'au niveau national, et c'est encore plus vrai en Occitanie, les décès sont plus nombreux que les naissances. Un chiffre assez marquant au niveau national, c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que les naissances sont moins nombreuses que les décès. Il y a plus de gens qui décèdent sur le territoire français que de naissances. Alors c'est encore, la différence est faible, 6 000, mais c'est la première fois depuis 1945. Exactement. Et on sait bien d'ailleurs que c'est un basculement. Le terme est bien choisi parce que la tendance va se poursuivre.
Par rapport toujours à ces autres régions, la région Occitanie se situe où par rapport à l'Île-de-France, à la région lyonnaise, à Marseille aussi, enfin toutes ces régions de PACA?
Alors en matière de sol naturel, contrairement au niveau national, ça fait un petit moment déjà que l'Occitanie compte plus de décès que de naissances chaque année. Pour une raison assez simple, c'est que l'Occitanie est une région plus âgée que la moyenne, avec un certain nombre de départements assez âgés. Parmi les 20 départements les plus âgés de France en matière de proportion de seniors, de gens de plus de 65 ans, eh bien, l'Occitanie en place 8 parmi les 20. Donc c'est vraiment une région plus âgée. Et donc le nombre de décès en proportion y est plus important qu'ailleurs. Donc cette année, c'est 14 000 décès de plus que de naissances au niveau de la région.
Oui, c'est ça, c'est une hausse de 1,5% en Occitanie, si on prend toute l'Occitanie et pas seulement Midi-Pyrénées. Vous disiez que c'était dû justement à un nombre plus important de personnes âgées. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres raisons
Oui, il y en a une autre et très importante, c'est la baisse du nombre de naissances. La hausse du nombre de personnes âgées et donc de décès, c'est un phénomène qui est commun à toutes les régions. Alors plus marqué, je l'ai dit tout à l'heure, plus marqué en Occitanie, mais arrivent aux âges élevés les générations nombreuses du baby-boom, et ça c'est vrai partout, et ces générations-là vont être de plus en plus nombreuses à décéder dans les années à venir. Mais ce qui est très très marquant, et qui concerne aussi toute la France, c'est la baisse très très rapide et très très marquée du nombre de naissances. Et ça, c'est le comportement de fécondité qui change. On pourrait se dire, oui, c'est simplement parce qu'il y a moins de femmes en âge d'avoir des enfants, donc moins d'enfants. Ça n'est pas ça. Il y a autant de femmes, même un petit peu plus que les dernières années, de femmes en âge d'avoir des enfants. Donc, ce qui fait la baisse des naissances, c'est le comportement de fécondité. C'est que reflète un indicateur assez connu, l'indicateur conjoncturel de fécondité. C'est la fécondité, le nombre d'enfants par femme diminue. Et il diminue très vite. En Occitanie, ce nombre a diminué. Alors, il est autour maintenant de 1,43 enfants par femme. Qu'importe, ça veut dire que c'est d'abord un chiffre inférieur à ce que permet le renouvellement des générations. Il faut deux enfants par femme, ou il faudrait deux enfants par femme pour que les générations se renouvellent. Et surtout, il diminue très vite. C'est-à-dire qu'en 15 ans, il est passé de 1,93 à 1,43, c'est-à-dire un demi-enfant par femme, excusez-moi, mais un demi-enfant par femme en moins en une quinzaine d'années seulement. C'est très très rapide cette baisse de la fécondité.
Est-ce que cette baisse de la fécondité en Occitanie, vous disiez qu'elle était maintenant de 1,43 enfants par femme, est-ce qu'elle est proportionnel dans les mêmes régions ou est-ce que vraiment l'Occitanie fait cavalier seul?
Alors, la baisse, elle est de la même ampleur au niveau national. Par contre, la fécondité, et ça historiquement, est plus faible en Occitanie. Et elle reste plus faible, hein, puisque la baisse est de la même ampleur. Donc, elle est à peu près 0,1 enfant par femme inférieur à la moyenne nationale, ce qui est assez marqué. Et cet écart-là ne se résorbe pas avec le temps.
Et est-ce qu'on sait pourquoi, justement, cet écart est marqué?
Alors, il y a des raisons historiques, hein, sociologiques, pour l'expliquer. La baisse, en tout cas, elle concerne à peu près toutes les régions, avec à peu près la même ampleur. Et savoir pourquoi cette baisse de fécondité et savoir quantifier les différents effets est assez délicat. Ce qui est le plus souvent avancé, hein, comme raison, c'est l'insertion tardive et de plus en plus tardive des femmes sur le marché du travail qui repousse l'âge du premier accouchement. C'est aussi le coût de l'éducation, hein, qui a plutôt tendance à croître. Hein, donc élever un enfant coûte plutôt plus cher, hein, en euros constants, hein, donc toutes choses égales par ailleurs, si j'ose dire, plutôt plus cher qu'avant. Il reste difficile de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Pour les femmes, cette conciliation peut être vécue comme une contrainte. Hein, il est contraignant d'avoir un enfant, probablement. Le phénomène le plus nouveau qui est avancé, hein, c'est la question de la confiance dans l'avenir.
Oui.
Une forme d'inquiétude, alors souvent liée d'ailleurs, ce qui est avancé, c'est souvent lié à une inquiétude liée à l'environnement, hein, ce qu'on appelle l'éco-anxiété,
oui.
Qui peut provoquer des comportements dont parfois on entend parler de type no kids, hein, plus d'enfants, liés à cette inquiétude environnementale. Ça peut être aussi lié à des inquiétudes liées à ce qu'on va léguer à ses enfants, hein, une crainte
l'héritage.
Intergénérationnelle. Voilà. Quel monde vais-je léguer à mes enfants, qui est d'ailleurs assez lié aussi aux craintes environnementales. Donc ça, ce sont des éléments qui, dans les enquêtes, hein, ressortent comme des véritables obstacles, freins à avoir des enfants. Ce qu'il faut ajouter, et j'aurais dû commencer par là, c'est que ce n'est pas un phénomène français. C'est un phénomène européen et mondial. Il y a maintenant assez peu de pays et assez peu de zones géographiques dans le monde où le nombre d'enfants croît. Ça baisse à peu près partout en Europe et à peu près partout dans le monde. Donc c'est un phénomène, et notamment ces inquiétudes-là, qui a des conséquences dans à peu près toutes les familles du monde.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, Alexandre Gauthier, parce que ça veut dire que même dans les pays qui ont mis en place des politiques familiales pour encourager la hausse des naissances, pour encourager les femmes à avoir des enfants et peut-être plus facilement concilier une vie professionnelle avec une vie familiale, malgré ça, la natalité n'augmente pas forcément.
Les politiques familiales, vous le dites, ont des effets, ont des effets favorables, ou dans certains pays, comme la Chine d'antan, hein, plus maintenant, mais ont des effets défavorables sur la natalité. Mais le phénomène est plus profond. Je le disais, il est mondial, il touche, en France on le voit très bien, hein, il touche toutes les catégories sociales, tous les types de territoires, urbains, ruraux, toutes les classes d'âge aussi, hein. La classe d'âge des 30-34 ans, les femmes de 30-34 ans, qui étaient celles dont la fécondité augmentait depuis les années 90. On repoussait l'âge de ses enfants, et donc c'était à ces âges-là, 30-34 ans, qu'on avait bien plus d'enfants qu'auparavant. Et bien même à cette tranche d'âge-là, la fécondité diminue.
Et c'est surtout l'âge du premier enfant, souvent, 30-34 ans maintenant.
Exactement, exactement. Et donc, à tous les âges, dans tous les territoires, quelle que soit la classe sociale, les naissances diminuent. La représentation de la famille a évolué, avec sans doute une montée d'un certain individualisme. On fait moins d'enfants parce qu'on le doit à la société. On a plus tendance qu'auparavant, en tout cas sans généraliser, mais à faire des enfants parce qu'on en a envie. Et cette envie a plutôt tendance à décroître avec le temps. Quand on interroge des jeunes qui n'ont pas encore d'enfants, bien, pour 40% d'entre eux, l'enfant à venir ou à naître est vécu comme une contrainte. Et seulement 20%,
comme une richesse.
Exactement. Et pour seulement 20% d'entre eux, c'est une source future d'épanouissement. Et au-delà de cette proportion-là, elle a évolué dans le temps. Les intentions d'avoir des enfants diminuent. Et ça, c'est très très clair. Les enquêtes de l'INED, de l'Institut national des études démographiques, le montrent. Interrogeant les jeunes, ils expriment une intention d'avoir moins d'enfants qu'auparavant. Et ça, c'est très, très net et c'est très marqué.
Et on voit bien, à travers ce que vous dites, qu'il y a finalement un basculement dans le désir d'avoir des enfants. Il n'est plus tellement pour l'enfant lui-même, mais plus pour les parents eux-mêmes.
Oui, les
choses,
effectivement.
Vous parlez d'épanouissement.
Absolument, hein, c'est vraiment une représentation de la famille qui change, à tel point qu'on parle de deuxième transition démographique. Tout le monde a appris à l'école, au collège, hein, la transition démographique qui consistait à faire baisser la mortalité et baisser la natalité. Mais en définitive, le solde naturel restait à peu près identique. Eh bien aujourd'hui, cette deuxième transition démographique consiste à ce que la mortalité diminue, mais maintenant assez peu. Hein, les espérances de vie augmentent, mais finalement assez peu. Tandis que la natalité, elle, diminue très fortement. Et ça, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une baisse de la population. On estime, l'INSEE et les Nations Unies estiment qu'à l'horizon 2060-2080, selon les types de projections, la population mondiale va diminuer à partir d'un maximum qui sera atteint de 10 milliards d'habitants. Donc le phénomène, il est mondial et il conduit à une baisse de la population, ce qui n'avait jamais été vu.
Oui, au moins cette information permet de rassurer ceux qui s'inquiètent depuis de nombreuses années en disant qu'on est trop nombreux sur cette planète. Là, en tout cas, on voit bien que ce chiffre diminue. Il y a une indication qui est intéressante aussi dans cette étude de l'INSEE, c'est le nombre d'hommes et de femmes. Il semblerait que l'écart entre eux s'amenuise.
Oui, l'espérance de vie augmente pour les hommes comme pour les femmes. Mais il augmente bien plus vite pour les hommes que pour les femmes. Peut-être un chiffre, deux chiffres, c'est 85,8 ans pour les femmes en Occitanie, hein, l'espérance de vie, et puis c'est 80,6 ans pour les hommes. Donc il y a quand même encore
5 ans d'écart.
Exactement, hein, oui. Il y a quand même encore 5 ans d'écart. C'était beaucoup plus il y a quelques années, hein, il n'y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, c'était près de 7 ans d'écart. L'espérance de vie, et je n'apprendrai rien à personne, hein, l'espérance de vie, ce qui permet qu'elle augmente, ce sont les progrès dans la prévention et le traitement, le progrès de la médecine, hein, que ce soit en prévention ou en traitement. Et tout particulièrement la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. C'est l'un des éléments, sans doute le principal, qui permet les gains d'espérance de vie. Or, les hommes sont plus exposés aux maladies cardiovasculaires. Et donc, les progrès de la médecine en la matière bénéficient d'une certaine manière davantage en proportion aux hommes qu'aux femmes, d'où la réduction de cet écart d'espérance de vie.
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, justement, pour expliquer cet écart qui se réduit, une forme de vie professionnelle qui peut parfois se comparer?
Sans doute, hein, que les modes de vie entre hommes et femmes ont plutôt tendance à converger lentement, malgré tout, très lentement. L'INSEE est en train de mener, et donc je n'ai pas encore les résultats, mais une enquête dite emploi du temps. C'est dans mes 24 heures, comment est-ce que je partage mon temps, notamment entre les hommes et les femmes. Et on voit encore quand même des différences assez notables qui montre que la convergence des modes de vie entre hommes et femmes est assez lent. Du point de vue sanitaire, hein, du point de vue de la santé, effectivement, qu'il y a peut-être moins de différences qu'auparavant. L'économie, hein, la structure économique et la structure des emplois a aussi évolué, hein, avec moins d'ouvriers et donc moins d'ouvriers hommes qu'auparavant. Ça conduit à une convergence finalement dans la structure économique entre les catégories sociales, en tout cas entre hommes et femmes, et avec des effets sur les espérances de vie. Ouais.
Merci Alexandre Gauthier de nous avoir présenté cette dernière enquête de l'INSEE sur la démographie en Occitanie. Je rappelle que vous en êtes le directeur régional, donc justement de cette institution, l'INSEE Occitanie. Bonne journée.
Bonne journée.